Texte 5, autour d'un feu de bois, écrit par Évariste Sanchez-Palancien. Observer un feu de bois, par exemple dans une cheminée, est souvent fascinant. On n'est pas obligé de le trouver beau, mais si on le regarde, plutôt si on l'observe, on est souvent pris dans une sorte de piège, parfois même dans une sorte d'envoûtement. Les flammes se ressemblent, et pourtant elles changent, évoluent, se renouvelant presque à l'identique, mais revenant à chaque fois sous une forme nouvelle, parfois inattendue. Mettons une nouvelle bûche dans un feu qui est près de s'éteindre. Elle sera d'abord attaquée par une des petites flammes. On dirait une sorte de langue qui lècherait la nouvelle bûche. Elle se retire après avoir léché et recommence, une, deux, peut-être 6 ou 10 fois. Ces tentatives, appelons-les comme ça, se ressemblent les unes aux autres. C'est pratiquement une image qui revient périodiquement avec à chaque fois une petite modification. Ensuite, cela bascule. La flamme, la langue, change de position. Elle attaque d'un autre côté, 1, 2, 5 ou 8 fois, et bascule à nouveau. La troisième série de tentatives peut être différente des deux précédentes, mais elle peut aussi ressembler à la première. Le plus souvent, avec un nombre différent de tentatives, puis basculera à nouveau dans une nouvelle série. De temps en temps, il y aura un changement plus profond. Cela peut prendre des formes variées. Par exemple, deux petites flammes qui suivaient le schéma décrit peuvent se rejoindre et donner naissance à une grande flamme qui jaillira en nous surprenant. Ou bien la bûche elle-même, consumée par une partie, s'effondrera, bousculant les flammes et les autres bûches ou ce qu'il en reste, ou bien le feu s'éteindra de lui-même, faute de manière combustible. L'évolution d'une flamme est pratiquement imprédictible. Elle entre pourtant dans le schéma que je viens de brosser. Si d'aventure on voyait une flamme se transformer soudain en un bloc de glace, on serait certainement très surpris. Le feu lui-même, dans une cheminée, est prédictible. Si vous l'allumez aujourd'hui comme hier, avec des bûches analogues, dans des conditions, température, présence ou absence de courant d'air et autres analogues, vous aurez un feu qui ressemblera à celui d'hier. Cela arrive qu'on ait des surprises, un feu qui ne prend pas, ce qu'on imputera à du bois humide ou tout autre, mais cela est normal. Cela n'a rien à voir avec l'imprédictibilité de l'évolution de chaque flamme dans les instants qui vont suivre. C'est probablement pour cela qu'un feu de bois fascine sans faire peur. Vous pouvez regarder son renouvellement imprédictible et original, parfois surprenant, sans danger pour vous, pourvu que l'on suive les consignes habituelles de sécurité. Un feu de bois est le meilleur exemple que je connaisse d'un processus sujet au chaos déterministe, ou SCI, sensibilité aux conditions initiales, le fameux effet papillon. C'est un exemple de mouvement turbulent de l'air, accompagné bien entendu d'une réaction chimique de combustion. Cet exemple permet de se faire une idée de la causalité et du vrai sens de l'imprédictibilité, tout en gardant des éléments prédictibles. De quoi dépendent les éléments imprédictibles d'un feu de bois? La petite différence entre une flamme et celle qui la suit dans une série, ou le fait de basculer ou non dans une nouvelle série de flammes qui se ressembleront entre elles. Manifestement, cela fait intervenir des tout petits détails, pratiquement incontrôlables. Modifier une toute petite fibre du bois d'une bûche, la position d'une brindille, ou le moindre élément atmosphérique, et ces éléments imprédictibles se dérouleront autrement, sans pour autant modifier de façon significative les éléments globaux qui font que le feu d'aujourd'hui est analogue à celui d'hier. On peut penser, et c'est vrai, qu'en reproduisant exactement tous les éléments du feu d'hier, vous pourrez le reproduire exactement aujourd'hui. Mais dans la pratique, cela est parfaitement utopique. Et au cas où vous auriez exactement les mêmes conditions qu'hier, vous ne pourriez pas vérifier par l'observation que le feu est le même. En effet, votre observation, votre respiration sont largement suffisantes pour faire basculer ces éléments pratiquement imprédictibles. Pour reproduire le feu d'hier, il faudrait que tout ce qui entoure le feu soit exactement pareil, ce qui est impossible, car aujourd'hui n'est pas hier. Vous savez parfaitement qu'un feu est un phénomène physico-chimique. Vous avez peut-être remarqué que j'ai utilisé pour le décrire quelques termes un peu équivoques à ce point de vue. Flamme qui attaque, langue qui lèche. Mais c'était pour me faire comprendre. Il est clair que je ne voulais nullement insinuer que les flammes aient ou obéissent à une quelconque forme de volonté. Je vous propose maintenant un petit jeu. En regardant un feu de bois, vous pouvez imaginer mentalement un point dans l'espace entre les flammes que vous fixez du regard pendant 10 secondes. Par exemple, il s'agit de voir si pendant ces 10 secondes, le point sera ou non touché par les flammes. Vous pouvez faire des paris. Cela ressemble au jet d'une pièce qui peut donner pile ou face. Mais c'est un peu différent, car manifestement, la probabilité d'être touché par les flammes dépend de la position où vous mettez le point. Imaginez maintenant que le point est un tout petit animal incapable de faire des déplacements rapides, mais doté de pensée et de sensibilité aux brûlures. Cela ne comporte aucune cruauté puisqu'il s'agit d'un jeu mental. Il est clair que pour un tel animal, le feu de bois serait tout autre chose que pour vous. Il percevrait les flammes comme extrêmement dangereuses et à l'évolution totalement imprévisible, au lieu de comme fascinante et à l'imprévisibilité locale et limitée. Il se peut même, cela dépend du type des capacités mentales que vous accorderiez à votre hypothétique animal, qu'il imagine les flammes comme étant effectivement dotées de pouvoirs volitifs ou mises en mouvement par une sorte de grand chien qui lèche, ou plutôt un affreux dragon. Les phénomènes météorologiques relèvent du même type de causalité qu'un feu de bois. Ce sont tous les deux des phénomènes turbulents. Vous savez parfaitement qu'il est impossible en pratique de prévoir le temps qu'il fera au-delà de 4 ou 5 jours, comme l'hypothétique animal de votre jeu voyait comme totalement imprévisible les mouvements des terrifiantes flammes qui l'entouraient. Quels sont, dans la météorologie, les éléments à causalité globale parfaitement prédictibles du type du « je vais allumer ce soir un feu comme celui d'hier » Ce sont les saisons, le climat chaud et humide de l'Amazonie ou froid de l'Antarctique. Nous le savons, nous n'y prêtons pas attention, alors que nous sommes très préoccupés par le temps qu'il fera aux prochaines vacances à l'endroit précis où nous comptons les passer, qui est un phénomène pratiquement imprévisible, pouvant basculer en autre chose par un petit rien, comme un battement d'ailes de papillon à un endroit éloigné. Notez que si le phénomène climatique en question peut avoir des conséquences très importantes pour une personne ou un groupe, pensez à une inondation ou à une tornade, il se peut bien que l'on allume des cierges ou que l'on organise des prières pour qu'ils prennent une tournure favorable, comme notre hypothétique animal croyait que son sort dépendait de la volonté de l'affreux dragon. Le caractère du type de causalité qui intervient pour le feu de bois ou la météorologie a été extrêmement difficile à comprendre. Et de nos jours, beaucoup de gens en parlent sans l'avoir compris, alors qu'ils ne sont nullement étonnés, mais peut-être fascinés, par un feu de bois. Henri Poincaré, 1854-1912, l'un des plus grands mathématiciens de tous les temps, a commis en 1888 une mémorable erreur en traitant un problème qui relevait du chaos déterministe. À cette époque, ni Poincaré ni personne ne connaissaient le chaos déterministe. Ils connaissaient les feux de bois, mais ils n'en avaient pas tiré les conséquences. Le problème en question concernait la stabilité du système solaire. On sait que les planètes décrivent des orbites approximativement elliptiques autour du Soleil, avec un mouvement périodique. Par exemple, la Terre fait un tour par an. Imaginons qu'un astre extérieur passe près du système solaire perturbant cette belle harmonie. Après son passage, le système solaire redeviendra-t-il ce qu'il était ou au contraire, sa structure sera-t-elle modifiée à jamais? Ce problème avait été proposé dans le cadre d'un prix offert par le roi Oscar II de Suède, grand protecteur et mécène des sciences, pour son 60e anniversaire. Poincaré concourt, et remporte le prix avec un mémoire absolument exceptionnel où il développe des méthodes mathématiques complètement inédites et originales pour traiter le problème et il prouve la stabilité du système solaire. Le travail fait l'objet d'un très long article qui doit être publié dans la revue suédoise Acta Mathematica. Lors de la préparation du manuscrit pour l'imprimeur, le jeune mathématicien Fragmen trouve des points obscurs dans une démonstration et demande à Poincaré de rédiger des explications complémentaires qui pourront être publiées dans un numéro ultérieur de la revue pour ne pas retarder la parution de l'article. Et c'est Poincaré lui-même qui, en cherchant à rendre plus clair son raisonnement, y trouve une erreur, qui était d'ailleurs passée inaperçue du jury du concours. Pire, il étudie la question et comprend que le résultat est faux. Qu'une démonstration soit fausse ne prouve pas que le résultat le soit. Il peut avoir une autre démonstration correcte. Le système solaire est instable, avec un type d'instabilité inconnu jusqu'alors, qui laisse stable certains éléments principaux, mais qui comporte des portions soumises à la SCI, sensibilité aux conditions initiales. Même amputé du résultat faux, le travail de Poincaré en contient d'autres, ainsi que des méthodes extrêmement novatrices qui méritent largement le prix, qui n'est jamais remise en question. Par la suite, Poincaré développe les nouvelles idées dans un livre, Les méthodes nouvelles de la mécanique céleste, qui a fait époque. Il y décrit les trajectoires. Citation de Poincaré. Ces intersections forment une sorte de treillis, de tissu, de réseau à mailles infiniment serrées. Chacune de ces courbes ne doit jamais se recouper elle-même, mais elle doit se replier elle-même d'une manière très complexe pour venir couper une infinité de fois toutes les mailles du réseau. On sera frappé par la complexité de cette figure que je ne cherche même pas à tracer. Rien n'est plus propre à nous donner une idée de la complication du problème de trois corps et en général de tous les problèmes de la dynamique où il n'y a pas d'intégrale uniforme. Fin de citation. C'est loin d'être clair. Et pourtant, il a compris que ce type de phénomène est assez général, dépassant le cadre strict de la stabilité du système solaire. Faute d'exemples palpables, ces résultats tombent dans un oubli relatif, connu seulement des rares lecteurs des « méthodes nouvelles de la mécanique céleste ». Dans les années 1960, un demi-siècle après la mort de Poincaré, l'Américain Edward Lawrence, 1917-2008, fait des modèles simples pour comprendre certains phénomènes météorologiques. Il fait des calculs sur ordinateur qui lui permettent d'avoir une solution approchée en donnant les valeurs à l'instant initial des divers paramètres, température, pression. Un jour, voulant reproduire un calcul de la veille avec des données très légèrement différentes, l'ordinateur lui donne une courbe d'évolution du système entièrement différente. C'était le point de départ de la théorie moderne du chaos déterministe, où grâce à l'ordinateur, on peut manipuler des exemples de ces courbes complexes que Poincaré ne cherchait même pas à tracer. Le schéma de l'évolution des idées apparaît ici de façon paradigmatique. Le formidable génie de Poincaré avait besoin de la lecture attentive de Fragmen pour corriger ses fausses intuitions. Des découvertes générales de grande portée peuvent rester endormies faute d'exemples palpables, de descriptions intelligibles, que des progrès techniques tels que l'ordinateur peuvent réveiller. Des analogies entre des phénomènes apparemment disparates, comme le feu de bois et la météorologie, émergent les lois générales de la nature, nous apprenant la véritable condition des croyances et des mythologies.